Ça leur ressemble. Terroriser la bourgeoisie, la faire vaciller, et ensuite, s'emparer des leviers de commande.
Radio quoi ?
Et qu'il ne parle à personne. Le secret absolu.
Radio Campus 88.3.
Ouah, putain, c'est chambé.
Welcome, Angie. Representando al Comanche. That's what it is.
Alors ?
Alors ?
Alors ?
On se fait un film !
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors ?
Alors ?
Alors ?
On se fait un film !
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et c'est maintenant effectivement l'heure de parler cinéma avec l'actualité cinématographique, donc les films à l'affiche. Et donc, pour parler du cinéma, eh bien, je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, eh bien, Xavier. Hello.
Hello, bonsoir à tous les auditeurs et actrices. Et ravi de vous retrouver pour la deuxième fois consécutive. C'est pas si fréquent, donc je suis très heureux d'être là.
Vive les vacances.
Vive les vacances.
Et Claude, bonsoir.
Bonsoir Céline et bonsoir à toutes et à tous, chers amis cinéphiles et autres d'ailleurs.
Oui. Ils peuvent le devenir.
Qui peuvent le devenir.
Oui.
Mais nous sommes ici pour vous faire aimer le cinéma.
Oui.
Voilà.
En tout cas, on va déjà en parler, donner un peu notre avis et peut-être effectivement donner envie aux gens d'y aller, de les découvrir. Et avant juste de commencer les chroniques, je fais juste une petite introduction sur des dates particulières, des projections uniques avant-premières. J'ai pas grand chose, hein, juste une date qui est donc demain, jeudi 23 mai à 19h au Cinéma des Carmes. C'est l'avant-première du film Une autre vie que la mienne de Magorza à Zumoska et Michel Englert. Donc c'est un film qui est proposé par Cinémundi, l'association Cinémundi, dans le cadre du mois de mai contre les LGBT-phobies. Voilà, donc c'est demain à 19h au cinéma Les Carmes. voilà, juste cette date et aussi rappeler, mais vous connaissez certainement l'actualité du Festival de Cannes qui va arriver à sa clôture très bientôt, là, samedi 25 mai. Donc on pourra.
On attend le palmarès.
On pourra en parler donc à la prochaine émission. Pourquoi pas. Est-ce que vous aviez, vous, des choses à rajouter, peut-être ?
Non, peut-être que tu peux reparler de trampoline, parce que je crois qu'ils peuvent encore recevoir des films. Je crois que
oui.
L'envoi de films n'est pas clos.
Oui,
je rappelle ce qu'est trampoline, c'est, me semble important.
Merci Claude. Effectivement, les trampolines du cinéma, c'est un concours de court-métrage. C'est la première édition qui est organisée par le Cinéma des Carmes et qui est adressée aux 15-25 ans qui habitent en région centre. Et donc, vous pouvez envoyer vos courts-métrages, vos films avant le 27 mai. Fiction, documentaire, clip, voilà, tous les genres sont acceptés. Enfin, tous, remarque, il n'y a pas l'animation. Donc, fiction, docu, clip. Voilà. Donc, il y aura sur ce concours un prix du jury et un prix du public dans chaque catégorie, avec une projection le 14 juin à 19h au Cinéma des Carmes. Voilà, le concours Les Trampolines du Cinéma, vous trouvez toutes les informations sur le site du Cinéma des Carmes. Voilà, j'ai peut-être pas donné suffisamment de détails, donc n'hésitez pas voilà, à aller sur le site internet ou appeler le cinéma directement et, parce qu'ils attendent vos films.
Allez-y, jeunes gens, laissez parler votre créativité.
Oui, vous serez la prochaine génération, donc on vous attend. Eh bien, voilà pour l'introduction avec l'agenda, le petit agenda. On peut passer maintenant aux films qui sont actuellement à l'affiche et on va commencer par Borderline, que vous avez vu, Claude et Xavier, que vous avez vu tous les deux.
Exact.
Qui va commencer ?
Oui, c'est gentil, Claude, comme tu en avais déjà parlé. Claude en avait déjà parlé.
Je laisse la main à Xavier, voilà. Ça me semble.
Alors, Borderline, c'est donc un film de deux réalisateurs qui se sont associés, Juan Vázquez et Alejandro Rojas, qui sont tous les deux des Espagnols. Et voilà, c'est un film brillant, Claude, tu l'avais dit. Et
catalan,
oui. Tu as raison, c'est un film extrêmement brillant. Alors, l'histoire, c'est très simple. Hein, c'est un couple arrive de...
C'est une anatomie d'un mensonge.
Voilà, c'est ça. C'est un couple qui arrive de Barcelone pour venir immigrer aux États-Unis. Et ce couple arrive à donc descendre son avion et contrôler, comme tous les gens qui arrivent aux États-Unis. À part que pour eux, ça va pas se passer comme ils avaient prévu. Et on va d'abord les interroger une première fois et les faire attendre dans une espèce de salle d'attente. Et puis ensuite, on les emmène dans un petit bureau où ils vont être interrogés par des gens de la police des frontières. Et donc, petit à petit, l'histoire va se développer. On va apprendre. Alors, il faut pas. Voilà, c'est le genre de film. Il ne faut pas trop en dire pour les gens qui ne l'ont pas vu. Voilà, tout ce que je peux dire, effectivement, c'est que c'est un film remarquablement réalisé, très très maîtrisé, une montée de la tension permanente, une utilisation du huis clos absolument magistrale, deux acteurs vraiment impériaux, et l'ensemble forme un tout très cohérent. Et un film qui te prend de la première à la dernière seconde pratiquement, le tout étant quand même très stressant, mais en même temps aussi très grinçant. Et moi, j'ai été effectivement extrêmement convaincu par ce film qui, tout en étant modeste, est tout de même un vrai moment de cinéma fort et percutant. Voilà.
Ouh, ça donne envie.
Oui, oui, c'est un film d'une efficacité monstre, d'une rigueur absolument juste. C'est en plus, c'est, comment dirais-je, c'est au cordeau partout. Et il l'a dit, Xavier, magistralement interprété. C'est un film glaçant, Je ne vous parlerai pas de la fin, mais la fin est... Alors, on peut imaginer plusieurs fins. D'ailleurs,
oui, ils en ont choisi une.
Ils en ont choisi une, voilà. On pouvait imaginer plusieurs fins. Mais c'est vraiment... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup comparé ce film à L'anatomie d'une chute. Ça n'a, pour moi, rien à voir, parce que L'anatomie d'une chute va beaucoup plus loin dans les... questions soulevées, notamment sur la mémoire, sur qu'est-ce que la justice et autres. Alors que là, on reste vraiment dans un huis clos, je dirais un huis clos glaçant, au possible. C'est un film d'une intimité monstre. Et ce qui est très curieux, c'est que ce film a eu la palme du... Enfin, disons, le prix du jury à Angers, dont la présidente était Elisabeth Huppert. Et il était présenté aussi à Annonay, et à Annonay, il n'a pas recueilli une seule voix. J'en ai parlé puisque j'ai dit, tenez, on n'a pas retenu Bordelagne, on peut en parler, tout simplement parce qu'on a considéré, pratiquement tous, que c'était du théâtre filmé, et qu'il y avait, à part le montage, il n'y avait pas beaucoup, à part la scène dans l'avion, il n'y a pas beaucoup de place pour le cinéma. Et tu m'as dit en off... que c'était un film de fabriqué. C'est ça, je crois, que tu avais utilisé comme terme. Ce qui est assez juste. Mais vous allez passer... Ça dure 1h23, je crois, pas
oui,
très
oui,
longtemps.
C'est concis. Et...
C'est vraiment un huis clos glaçant.
Ben, je crois surtout, pour dire une toute dernière chose sur le film, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très réussi et très intéressant, c'est que, comme tu disais, bon, il y a cette histoire du couple et il ne faut pas révéler tout ce qu'on va apprendre dans le film. Mais moi, je pense que ce qui fait le prix de ce film, c'est que derrière, il y a cette machine administrative américaine, mais ça pourrait être dans un autre pays, qui est là pour broyer l'individu. Et cette machine, elle est là. En plus, au début du film, on sait que ça se passe au début du mandat de Trump. Il parle du mur, là, du fameux mur qu'il voulait faire avec le Mexique. Et je pense que le fond du film, c'est de montrer que ces gens, cette administration est là pour empêcher des gens de rentrer dans ce pays. Et son but, c'est de réduire à tout prix le nombre d'entrées dans ce pays. Et il y a toute une machine de destruction, si on peut dire, de l'individu qui est mise en place pour ce résultat. Mmh. Et je pense que le film est vraiment... Et Claude parlait d'un côté glaçant. Et je pense que ce qui glace le plus, c'est ça. C'est cette machine administrative qui est là pour détruire des individus.
C'est donc politique, finalement.
Je pense qu'il y a, une vraie dimension politique dans ce film.
Oui, parce que j'ai un ami très cher, d'ailleurs, qui a des demi-frères aux États-Unis et des demi-sœurs aux États-Unis. Et il a été avec un autre demi-frère qui était français et qui est un travailleur manuel. Donc, quand ils ont fait l'épreuve des pouces et autres, ils y arrivaient bien naturellement. Pardon, excusez-moi. Les pouces étaient très abîmés, la peau était très abîmée, ils ne pouvaient pas... Ils ont dit, bon, allez, hop, c'est bon, passez. Bon, parce qu'il était déjà blanc, pour commencer, et surtout, c'était des officiers d'immigration. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une femme qui est officier d'immigration, et c'est une latino. Mm-hmm.
En tout cas, voyez le film. Si vous avez encore l'occasion de le voir, voyez-le.
C'est un film très... je veux dire, ça dure... On est glacé sur son siège, là.
Eh bien, vous le vendez bien. Et j'essaierai de le voir, effectivement. Eh bien, merci. Et donc, on peut passer au deuxième film qu'on a vu. C'est le Tableau volé.
Et on l'a tous vu.
Oui, tous les trois. Donc, le Tableau volé, qui est le dernier film de Pascal Bonitzer. Et je commence. Ça va être assez court, mais donc juste en rappel, c'est une fiction qui se déroule dans le milieu de la vente aux enchères en France, et c'est inspiré d'une histoire vraie avec un tableau du peintre Egon Schiele. Je le prononce peut-être pas bien. Et qui donc un tableau qui est retrouvé chez un jeune ouvrier à Mulhouse. Et donc c'est assez particulier comme histoire, mais en tout cas ça permet de rentrer dans ce milieu de la vente aux enchères et des commissaires priseurs. Et j'ai bien aimé le traitement des personnages. pour cet aspect-là, j'ai vraiment apprécié le côté qui n'est pas du tout manichéen. J'avais quelques craintes de ce milieu qui soit vraiment, vraiment valorisé. Alors qu'ici, justement, Bonitzer, il marque vraiment la différence entre le milieu ouvrier et ses Parisiens, ses Parisiens privilégiés. Mais sans condescendance et sans cliché, ça, j'ai plutôt bien apprécié. En termes de cinéma, je trouve que c'est assez basique, assez scolaire, mais ça marche bien. C'est plutôt bien rythmé. J'ai vraiment plutôt été surprise par les personnages et comment il les a construits et j'ai bien apprécié parce qu'il y a beaucoup, il y a certains aspects où j'étais aussi surprise en termes de scénario et voilà plutôt bonne surprise.
Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Moi c'est un film, j'ai pas envie de m'étendre très longtemps dessus. Je pense qu'il y a des films beaucoup plus intéressants dont on va parler par la suite. Je suis d'accord avec toi sur le fait effectivement c'est bien écrit parce que Bonitzer c'est quand même avant tout un scénariste. Il a travaillé longtemps avec Téchiné notamment, donc on sait que c'est quelqu'un qui sait écrire des personnages. Et comme tu le disais, c'est vrai que les personnages sont bien écrits, pas manichéens. Je pense qu'il montre ce milieu effectivement de l'art et aussi avec ses petites turpitudes, ses petites manigances, mais sans non plus rentrer dans quelque chose de, c'est pas rentre dedans non plus, ça garde une certaine élégance, c'est dû aussi à l'interprétation qui est très bien. C'est vrai que Lutz il est très bien comme d'habitude, Louise Chevillotte elle est très très bien cette actrice, voilà, Léa Drucker on sait que tous ces acteurs ça fonctionne bien ensemble, et puis voilà, à l'arrivée ça donne un film élégant, bien écrit, mais comme tu le dis des fois Claude, hein, à juste raison, c'est pas un film qui restera dans les mémoires, parce que Bonitzer c'est du bon travail, c'est du bon travail, de la bonne qualité France, comme on dit des fois un petit peu ironiquement, mais c'est pas grand chose de plus non plus. Voilà. Donc c'est un film plaisant, c'est un film, moi je suis pas sorti déçu, mais voilà, après on passe rapidement à autre chose.
Oui, oui. Et toi, Claude ?
Je veux dire que c'est la peinture d'un milieu, les portraits des individus qui hantent ce milieu. Et notamment, ce que j'ai bien aimé, c'est le rapport à l'argent, qui est quand même très intéressant par rapport à cet ouvrier. Je dirais que c'est un film de grande qualité française. Bon, ça ne laissera pas un grand souvenir, mais c'est un film qui est bien fait. C'est un film grand public, mais si tous les films grand public étaient comme celui-ci, on courrait un peu plus dans les salles.
Peut-être. Non, mais t'as peut-être raison.
C'est possible, oui. Eh bien, on est tous les trois d'accord, hein, super. Eh bien, dommage, remarque, on aurait pu débattre, mince, tant pis, ce sera pas sur le tableau volé, qu'on vous conseille quand même d'aller voir au cinéma le dernier Pascal Bonitzer. Je vous propose une pause musicale. Justement, on va écouter un morceau de la bande originale du tableau volé qui a été composé par Alexei Egui. Et donc le morceau, c'est Lettre de Martin. Et on se retrouve juste après. Thank you. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et nous venons d'écouter un morceau de la bande originale du film Le Tableau Volé de Pascal Bonitzer qui est actuellement à l'affiche. Je crois qu'il y a encore quelques séances. Et nous continuons donc dans nos chroniques de « Alors on se fait un film » et voyons voir dans la liste que nous devons aborder, eh bien, c'est « La vie selon Anne » que vous avez vu.
Oui, eh bien...
Qu'on a vu tous les deux.
Eh bien...
Tu me laisses...
Je laisse la main.
C'est gentil, oui. Claude. écoute, déjà, première chose, Céline, je t'invite à essayer d'aller voir ce film, car on aimerait... on en a parlé au micro avec Claude, on aimerait avoir ton avis sur la question. Voilà, alors je ne sais pas si tu pourras, mais en tout cas, si c'est le cas, on aimerait avoir ton avis sur ce film.
D'accord.
Voilà.
Mais pourquoi
voilà, bah, j'y viens, Céline. Voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à New York et qui alors voilà, moi on m'avait vendu un peu le film entre guillemets comme une comédie grinçante. Et moi, je suis allé voir un film qui n'est pas du tout une comédie grinçante et on était d'accord avec Claude sur la question. C'est un film très sombre, très très noir, et en fait il s'agit de la peinture d'une société américaine, on va dire petite bourgeoise et bourgeoise, qui évolue dans une que
éduqué,
ça soit
éduqué.
dans le cercle éduqué qui évolue que ce soit dans le cercle intime ou dans le cercle professionnel dans un climat de vacuité, d'ennui, de déshérence morale et physique totale, et c'est une société totalement déprimante. Et il s'avère que le personnage féminin principal, et la réalisatrice Joan Arnaud a parlé d'autofiction. Donc, quelle est la part voilà,
elle, sur pareil. Elle joue dedans.
Oui, elle joue son rôle et elle a parlé effectivement d'autofiction. Effectivement, cette femme va trouver comme seul moyen dans sa vie de mettre, on va dire, un peu quelque chose dans sa vie, de mettre quelque chose d'un peu intéressant dans cette vie absolument plate et terrible, c'est d'avoir un rapport, des rapports SM, des rapports de domination, où effectivement, elle a des relations avec des hommes qu'elle appelle ses maîtres, et elle va effectivement exister simplement, se sentir exister à travers ses relations. Alors après, effectivement, libre à toi en tant que public de te positionner par rapport à ça. Mais moi, j'ai trouvé le film très intéressant parce que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, où effectivement le film a été beaucoup critiqué, accusé, par, notamment à Deauville, où il a été présenté, où apparemment les gens quittaient la salle, ont exprimé vraiment leur rejet de ce que cette femme voulait montrer, et notamment penser que ce qu'elle voulait dire, c'était que cette femme prenait son pied et était libre à travers sa soumission. Mais moi, je n'ai pas du tout ressenti le film comme ça. Moi, je pense que cette femme, elle se sent exister par ce biais-là, mais le film nous montre bien que aucun personnage ne prend du plaisir. Aucun personnage ne se sent bien dans ce monde et même dans ces relations-là. Et donc, à l'arrivée, pour moi, c'est un portrait extrêmement sombre, déprimant, et à aucun moment on ne voit ces gens prendre du plaisir. Ils ont simplement l'impression que leur vie va être un petit peu plus intéressante comme ça, mais ça n'est absolument pas le cas. Voilà.
D'accord. Et toi, Claude ?
Ouais, je suis d'accord avec Xavier, on en a parlé en off. Pour moi, c'est un film sur le désespoir, où le désespoir se réfugie dans le sexe. Et cette femme, il l'a dit Xavier, le seul moment où elle existe, c'est dans ces relations sadomasochistes, aller dans une position de masochiste. Et il ne faut pas oublier que, si on lit bien Sacer Maloche, que celui qui a le pouvoir, ce n'est pas le sadique, c'est le maso. Et elle se retrouve dans cette situation. Et ce qui est intéressant et qu'il ne faut pas oublier, c'est voir quels ont été ses rapports avec ses parents.
Oui, c'est vrai que ça joue une place très importante dans le film. Oui,
oui, les rapports avec, si on voit les rapports qu'elle a avec ses parents, on détermine quelle peut être sa sexualité. Donc c'est un film, je ne savais pas qu'on avait dit, que, j'ai rien lu, qu'on avait dit que ce film était une comédie. On est très loin d'une comédie. Et j'allais dire qu'avec Xavier, grâce à lui, on avait été voir ce film sur le communautarisme qui s'appelle The Sweet
East.
Et ce film-là sont deux peintures des États-Unis et on comprend encore mieux pourquoi ils avaient voté Trump. Hein.
C'est vrai.
C'est...
Ah oui, donc il y a aussi cet aspect politique.
Oui, je pense qu'il y a dans ce film-là, il y a aussi un aspect politique. Oui, oui.
Alors, il est bien évident que c'est un film, on pourrait dire, bah, vous l'avez vu, c'est bien, vous ne l'avez pas vu. C'est un film qu'il faut aller chercher, quand même. C'est pas facile. C'est pas un film qui s'offre à vous.
C'est pas accessible, c'est pas très...
Non, honnêtement, c'est un film qui joue surtout sur l'ellipse.
Voilà, beaucoup d'ellipses.
Il montre des situations scabreuses, mais franchement, rien ne dérape, si on peut dire. Et voilà, c'est un film qui est visible, je pense, par un public même adolescent. Voilà. Mm-hmm. Mais effectivement, comme le disait Claude, c'est le genre de film qu'il faut aller chercher. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément confortable. Je pense que quelque part, le jeu en vaut la chandelle parce que voilà, c'est un film qui n'est absolument pas politiquement correct et qui t'incite, toi, à te positionner, réfléchir et. Moi, pour ça, c'est un cinéma qui est quand même précieux.
Et c'est ce qu'a dit Xavier est important. C'est cette femme qui... Quels sont ses moyens de... Comment elle peut exister dans la vie? Comment elle peut... Ça me rappelle... Là, on est dans un autre domaine, chez Casanova. Casanova, c'était ça. Il n'existait que par les femmes. Je veux dire, s'il y avait pas... Il n'existait pas en dehors des femmes, ce type.
D'accord.
J'arrête le parallèle, mais c'est un film. Enfin, pour moi, c'est un film à voir, mais il faut faire un effort.
Voilà.
Ok, j'essaierai de le voir aussi. Ce film, effectivement, vous m'intriguez beaucoup.
C'était le but.
Et donc, c'est La Vie selon Anne, réalisé par Joanna Arnaud.
C'est un film fait par une femme.
Voilà.
Oui, d'accord. Oh, ok. Oui. Et elle joue dedans aussi. Oui. Eh bien, merci. Et donc, le film suivant, eh bien, c'est un documentaire, Là où Dieu n'est pas. Et c'est le dernier film de Mehran Tamadon qu'on a vu, Claude, que tu as vu aussi.
Oui.
Et Là où Dieu n'est pas, eh bien, je commence.
Oui, commence.
Donc, Mehran Tamadon, qui est un réalisateur iranien, qui a réalisé notamment Iranien. Qu'il a réalisé en 2014, où il invitait des religieux musulmans dans une maison pendant 48 heures pour débattre du vivre ensemble. C'est un film qui m'a un peu marqué. Et que j'avais trouvé intéressant, et aussi certaines frustrations sur les échanges qu'ils ont pu avoir. Du coup, j'étais très intéressée par ce nouveau film, Là où Dieu n'est pas, où cette fois, nous sommes en France. Tamadon donc interviewe trois Iraniens exilés en France qui restituent leurs conditions de détention en Iran, où ils ont été torturés. Et donc, avec ce film, en fait, Tamadon explique qu'il pense pouvoir ébranler les bourreaux, en fait, de ces incarcérations, les personnes qui ont fait ces actes de torture. Et du coup, je trouve qu'il a une certaine naïveté, Tamadon, de croire possible, en fait, d'éveiller, de convertir ces personnes. Enfin, voilà, effectivement, il y avait ce côté aussi naïf dans son dernier film iranien, dans son précédent iranien. Et donc là aussi, je retrouve du coup ces échanges-là qui me semblent un peu naïfs. Ça sera dit à la fin du film par l'un des interviewés, là, le dernier... Qui lui dit qu'il y a une certaine naïveté. Et par contre, ce qui est intéressant à travers la parole, c'est d'observer les mécanismes d'oppression et de domination qui sont subis par ces trois Iraniens, deux hommes et une femme, et comment notre État, en fait, peut être bouleversé, en fait, comment pour survivre, en fait, on peut avouer des actes qu'on n'a pas commis ou se convertir à une religion. En fait, ça, c'est assez intéressant à entendre. Parce que ce sont surtout des prisonniers politiques. Et donc il y a un processus qui naît dans la violence. Et ça c'est plutôt intéressant. Par contre, pour montrer ce processus d'endoctrinement, Amadon il met en place un dispositif pour recueillir cette parole. Et en fait, il met en scène les lieux d'incarcération et il fait revivre aux victimes, à ces anciens prisonniers, ce qu'ils ont vécu en leur demandant de tout raconter. Et ça va jusqu'à ce qu'un des trois fabrique lui-même une copie de son lit où il a été torturé. Et je trouve que c'est terriblement violent. Je me demande s'il faut vraiment aller aussi loin, faire souffrir les gens pour un film. J'ai trouvé que c'était un peu limite. Et puis révéler... révéler la violence, cette violence-là est nécessaire, mais au point de faire revivre les atrocités subies, je trouve que c'est peut-être pas ça si nécessaire, et peut-être de trouver d'autres moyens pour en parler, et puis même il fait devenir à ses victimes leurs propres bourreaux pour montrer les actes qu'ils ont subis. Et du coup, je reste un peu sceptique sur psychologiquement ces trois personnes, ce qu'elles ont pu vivre. Et dernière chose, c'est un diptyque. Hein. Enfin, je savais pas en allant le voir, mais il y a un deuxième film, Mon pire ennemi, qu'il a donc réalisé aussi, qui est en salle encore en ce moment. Il reste très peu de séances. Qui est intéressant à voir aussi en même temps.
D'accord. Alors moi, je savais pas qu'il avait fait Mon pire ennemi. Ça passe à Orléans, ça ?
Oui, oui, oui. Il y a encore une séance au Carme, je crois, lundi matin.
D'accord. Je suis tout à fait en phase avec toi sur ce film. J'avais beaucoup aimé Un Iranien parce que c'est un film de dialectique. Et Tamandan, qui est un laïc, s'opposait aux mollahs. Et les mollahs, alors là, moi, j'ai été absolument, pas surpris, mais disons, très... Leur dialectique m'a beaucoup interrogé. Ils ont une force de dialectique et on peut très difficilement les déstabiliser.
Et dans
ce film, Un Iranien, à un moment, Tamandan, il perd pied. J'avais interrogé quand il était venu à Orléans. Il perd pied. On voit qu'il ne va pas y arriver. Donc, pour en revenir à là où Dieu n'est pas, moi, je suis en phase avec toi, ce qui m'a dérangé, c'est que par moments, j'ai l'impression d'être un voyeur et un voyeur un peu malsain. Je me suis senti mal à l'aise dans ce film.
Ouais,
je me suis senti mal à l'aise. Qui est pourtant un côté très, très voyeur, le plaisir des yeux. Là, j'avais pas envie ni de voir ni d'entendre. Je sais pas si... ce type de narration, en plus il a reconstitué dans un entrepôt qui est complètement sordide, il leur a fait construire les cellules avec... regarder la captivité, je me suis senti pas très bien dans ce film.
Ah oui, effectivement. C'est vrai que ça interroge un peu le dispositif. C'est le dernier Tamandan, là où Dieu n'est pas. Et je ne sais pas si on pourra avoir Mon pire ennemi, donc le diptyque. Ce sera peut-être intéressant, mais bon, si on arrive à le voir. Il y a très peu de séances. On passe au film suivant. Encore un film qui n'est pas très drôle.
Non, on parlait de voyeurisme, c'est intéressant, on va faire une transition là.
Effectivement, avec Civil War. Civil War qui est donc le dernier film d'Alex Garland. Je te laisse commencer.
Écoute, moi j'ai été très impressionné par ce film. Alors j'y allais avec un a priori déjà extrêmement favorable, car mes amis chroniqueurs de l'excellente revue Mad Movies m'avaient tresser des couronnes de fleurs autour de ce film. Alors, Alex Garland, c'est un réalisateur britannique qui travaille aux États-Unis. Il a fait Ex Machina il y a quelques années. Il avait fait ce film fantastique très très bien, Men, il y a 2 ans. Il a travaillé aussi pour Netflix. Voilà. Et là, en fait, il nous plonge au cœur d'une guerre civile qui se déclare aux États-Unis, c'est-à-dire que la Californie et le Texas font sécession et on entre donc dans une guerre civile extrêmement violente. Et en fait, le film nous montre une équipe de télévision avec une vieille briscarde jouée par Kirsten Dunst et une jeune novice qui veut devenir elle-même reporter de guerre, qui part donc avec cette équipe. Et donc ils vont suivre la ligne de front, leur objectif étant d'aller à la Maison Blanche où le président est acculé par les forces du Nord et qui ont pour objectif de l'abattre. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé que le film est bluffant, vraiment, on est au cœur des combats. Moi j'ai rarement vu un film de guerre aussi intense et aussi réaliste. On a l'impression en fait d'être embarqué avec une équipe de télévision et en même temps ça reste constamment du cinéma et un cinéma d'une ampleur et d'une efficacité et d'une intensité incroyable. Il y a des scènes mais vraiment où il entretient une tension mais incroyable. Il utilise les décors de façon remarquable. Tout est angoissant, tout est propice à installer un climat fort et angoissant. Et franchement, moi je suis sorti mais bluffé et retourné, c'est un putain de cinéma, voilà.
Eh bien, oui, je te rejoins. Effectivement, c'est un film hommage aux photographes de guerre. D'ailleurs, dans sa famille, à Exerland, il y a justement des journalistes de guerre. Donc, c'est assez intéressant. Mais oui, il dénonce la brutalité aussi, la brutalité crue du fascisme. C'est une dystopie qui est très réaliste. Dans un décor, comme tu effectivement, parfois post-apocalyptique, c'est étonnamment réel et du coup très effrayant. Et vraiment, je trouve qu'on n'en sort pas indemne. Et il utilise les codes du documentaire, en fait. J'ai pensé au cinéma de Catherine Bigelow.
Le côté immersif, immersif. Immersif, et en même temps, oui, ça reste du très grand cinéma.
Oui, c'est
et
ça.
C'est vrai qu'il y a un vrai point commun à Catherine Bigelow.
J'ai vraiment pensé à elle, et il cherche à ne pas glorifier en fait la violence, et en fait, ça la rend plus brutale. Et du coup, c'est assez difficile. C'est très difficile à voir. C'est assez dur. Et en tout cas, qu'est-ce que je veux dire qui montre aussi la dangerosité du métier de reporter de guerre qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps une critique du photographe qui peut prendre en priorité des photos au lieu de secourir, mais qui justement là il le montre dans ce film que c'est chacun son métier aussi. C'est qu'un photographe de guerre, déjà c'est son travail, c'est qu'il il est là pour témoigner, il est présent là pour témoigner, et ensuite c'est dit dans le film que c'est qu'ensuite c'est repris pour que ce soit justifié. Enfin voilà, c'est un gros travail pour témoigner de la guerre. Et chacun son métier. Il y a les soldats, il y a les soignants, et donc un photographe de guerre, même si s'il fait autre chose que son métier, il peut en mourir. Et je trouve que c'est voilà, il est vraiment vraiment intéressant, vraiment vraiment flippant, mais nécessaire aussi de montrer cette réalité de la guerre.
Toute dernière chose, c'est que moi je trouve que ça fait partie de ces films qui montre à quel point la guerre, c'est sale, c'est violent, ça n'a absolument rien de spectaculaire, et en même temps, ce type réussit à nous faire un film ultra spectaculaire en nous disant justement que la guerre, ça n'a rien de spectaculaire. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même très, très fort.
Merci.
Mais tu nous renvoies à Francis Ford Coppola ?
Tout à fait. Et à tous les grands films de guerre. Je pense que là, on est dans ce calibre-là.
Oui. On va faire une pause musicale en écoutant un extrait de la bande originale du film donc Civil War. Le morceau, eh bien, c'est Moving Out, qui a été composé par Geoff Barrow et Ben Salisbury. Et donc, on écoute et puis on se retrouve toujours après sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un extrait de la bande originale du film Civil War d'Alex Garland, qui est toujours à l'affiche, je crois, qu'on vous conseille d'aller voir. Et eh bien, nous arrivons au dernier quart de notre émission. Et eh bien, nous allons parler, surtout toi, Xavier. Tu as vu Madame Hoffman ?
Voilà, alors c'est un
document. Et je vous parlerai en dernier peut-être du Quentin Dupieux.
Peut-être.
Oui, si on a vraiment le temps.
Bien sûr, on a le temps, bien sûr. Okay.
Alors, en tout cas, Madame Hoffman, un documentaire. Là encore, Céline, je pense que c'est un film qui t'aurait vraisemblablement intéressé, que peut-être tu auras l'occasion de rattraper, même certainement. Alors, c'est un documentaire de Sébastien Lifshitz, qui est un documentariste français renommé à présent, qui a été récompensé notamment pour Adolescente, qui a fait Les Invisibles, qui a fait, tu m'en reparlais tout à l'heure, ce film sur
la petite fille.
Cette petite fille, là, je me rappelle plus comment s'appelait ce film, qui était très très beau aussi.
Oui.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait déjà largement ses preuves dans le domaine du
documentaire. Petite fille.
Petite fille, voilà, qui a fait largement ses preuves dans le domaine du documentaire. Et là, donc il a choisi de braquer sa caméra sur ce personnage de Madame Hoffman, qui est donc une aide-soignante qui travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille, qui va partir à la retraite et qui finalement revient sur sa vie professionnelle. On la voit, le film commence donc au moment du Covid, donc on voit la vie de cet hôpital assez compliquée au moment du Covid. On voit sa relation avec, parce qu'elle est cadre, donc elle est infirmière cadre de santé, donc on voit sa relation avec son équipe soignante, avec les aides-soignantes, avec son chef de service, les médecins. On voit toute cette famille que constitue ce monde de la santé. Et puis cette femme, donc elle a une vie aussi à côté, et bon, qu'elle va raconter tout ce qu'elle a vécu, des choses terribles, des choses plus drôles, plus légères. Et puis voilà, on la voit vivre au quotidien. Et puis on voit ces moments de calme aussi, ces moments plus calmes quand elle va rejoindre l'homme avec qui elle vit, qui lui vit à une cinquantaine de kilomètres d'elle, ils n'habitent pas ensemble. Donc elle, c'est ces moments de paix, si on peut dire. Et donc il y a de longs moments d'apaisement comme ça, où on la voit qui marche le long de la mer, parce qu'on sent aussi qu'il y a ces moments où il faut que la tension retombe. Voilà. Et moi, j'ai trouvé le film très juste. C'est un documentaire, mais c'est comme souvent chez Lifshitz, c'est très cinématographique. Il y a de vrais beaux plans, c'est en cinémascope. Voilà, donc on est quand même immergé dans quelque chose qui est quand même artistiquement intéressant, et le sujet est fort, et cette femme, elle est hyper attachante. La manière dont elle raconte sa vie, on est vraiment pris. Et en plus, en bonus, il y a sa relation au long cours avec sa mère, qui était elle-même infirmière, qui lui a passé le relais, si on peut dire. Et il y a de nombreuses scènes de dialogue entre la mère et la fille, et qui donne énormément de prix au film, parce que c'est vraiment pour moi, c'est les meilleurs moments du film, c'est cette relation qui est entre la mère et la fille, cette passation entre elles, et cette espèce de tendresse qui existe mais qui dit pas vraiment son nom. Il y a quelque chose de très fort, de très émouvant. Voilà, donc moi j'ai été très très convaincu par Madame Hoffman.
Ah là là, il faut que je le voie. Est-ce que tu veux enchaîner avec un autre film que tu as vu,
oui,
comme à lundi?
Oui, alors là, c'est, on n'est pas du tout dans le même dans le même registre, ni dans la même ni dans le même enthousiasme. Alors c'est un film, donc un premier film japonais. Alors le film reprend le dispositif finalement de la boucle temporelle qu'on a déjà vu dans beaucoup d'autres films. Alors moi, j'ai pas été plus convaincu que ça. Pour moi, c'est un petit théâtre filmé. Voilà, on est là, au lieu que ça soit un jour qui se répète, comme chez Harold Ramis, on est dans une semaine qui se répète, donc dans une petite entreprise. Enfin, c'est un open space, voilà, japonais. Ils sont un petit groupe, et donc ils vont se rendre compte petit à petit qu'ils revivent la même semaine, chacun essayant d'alerter les autres. Et puis, bon, voilà, le récit va nous montrer que c'est pour deux raisons. On va dire qu'il y a deux rebondissements dans le récit, mais pour le reste, bon, moi j'ai trouvé ça quand même un petit peu paresseux. Voilà. Après, c'est toujours pareil, quoi. C'est des films qu'on suit sans déplaisir. Les acteurs sont plutôt bons. Il y a quelques situations qui tiennent la route. Il y a quelques répétitivités, quelques gags un peu répétitifs qui se laissent voir. Mais bon, à l'arrivée, moi j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu languissant, et que ça manquait quand même de quelque chose qui aurait pu donner un petit rythme, une petite dimension supplémentaire au film. Donc voilà, moi honnêtement, c'est un film que je recommanderais pas plus que ça.
D'accord, pas convaincu. Eh bien, merci.
Nous arrivons à l'ouverture du Festival de Cannes.
Ah, c'était
l'ouverture.
Oui.
Film d'ouverture.
Mais est-ce qu'il est en compétition?
Non.
Comme le Comte de Monte Cristo, il y a des films comme on veut pas qu'ils se ramassent au palmarès, donc on préfère les mettre hors compétition.
Il n'est pas en compétition, le Comte de Monte Cristo.
Non. C'est un film, encore un film sur un film. Alors, on savait que Truffaut.
C'est étonnant ça.
On savait que Truffaut savait très bien faire. Alors, dans ce film, ce sont les comédiens qui sont au centre avec toute leur turpitude. Quentin Dupieux soulève beaucoup de problèmes. Sans les traiter, c'est bien. Il soulève un problème, et après, il en prend un autre, et puis il repart sur autre chose.
Tout ça en 1h20, comme d'habitude.
Tout ça en 1h20, c'est bien interprété. Donc, il traite c'est quoi un acteur, avec le questionnement sur le doublement, la personnalité, jouer le personnage que vous n'êtes pas. Enfin, bon, c'est assez classique. Et il introduit quand même quelque chose d'intéressant qui pose vraiment un problème à l'heure actuelle à tous les créateurs. C'est comment l'IA, nous traduisons par intelligence artificielle, qui s'infiltre dans le cinéma. Alors, c'était intéressant, mais il soulève juste ça, puis il passe à autre chose après. Donc, moi, je veux bien Ben, c'est ce que je disais, ils soulèvent des pistes sans les exploiter. Moi, je trouve que c'est un film qui n'est pas très approfondi. Et comme le disait Xavier, c'est bien parce que ça dure 1h20. Donc,
moi, au moins, avec Dupuis, on sait que on n'aura pas forcément à subir plus longtemps.
On ne va pas s'apesantir. C'est très bien joué. Les seconds rôles sont exceptionnels. On passe un bon moment, mais j'allais dire, quand est-ce que Quentin Dupieux va vraiment se mettre à faire du cinéma sérieux, quoi ?
Ouais, bah, enfin, t'es bien gentil, en fait.
Vas-y, Céline.
Vas-y, Céline.
Exprime-toi.
Oh là là.
Ah bah oui, tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu. Je
veux t'entendre, bien sûr.
Malheureusement, je l'ai vu, mais bon, justement, c'était pour avoir un avis et voilà, de voir le dernier Quentin Dupieux qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, hein, quand même.
Ah, quand même, hein.
Quand même, oui. Moi, je sais pas comment ils sélectionnent quand même les films.
Il gagne un statut, de film en film, comme quoi, ouais, faire un film tous les trois mois, ça peut...
Et pourtant, sur les conférences de presse, par contre, il est moins apprécié, hein, vu qu'il veut rien dire sur son film. Comme s'il avait tout dit dans son film. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, mais conférence de presse à Cannes, il a dit ne vouloir rien dire. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais alors le film, il y avait un aspect intéressant sur le jeu de la réalité-fiction, pourquoi pas. Mais alors pour dire toute cette merde quand même, je vais dire mais c'est un bon condensé de conneries en fait. Il passe par toutes les discriminations possibles et je trouve que c'est hyper malvenu au vu du contexte actuel des luttes et vraiment ça m'interroge de voir ce film faire l'ouverture du Festival de Cannes. Donc c'est un film. Je trouve que ça fait rire les gens qui disent on ne peut plus rien dire et c'est tout. Enfin, c'est une suite de dialogues, de plaisanteries faciles sur la cancel culture. J'ai pas supporté.
Ah oui, t'as raison, j'ai oublié de dire. C'est quand même un peu facile, quoi. C'est un peu caricatural, c'est pas trop. J'allais dire qu'il fouille pas trop que notre ami. Quentin Dupieux survole les choses et puis...
Après, moi, je l'ai pas vu, donc...
Tu le verras demain,
j'écoute, oui, j'écoute ce que vous dites. C'est intéressant parce que ce que tu dis, Céline, sur le au-delà du Dupieux, sur Cannes, parce que je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de films qui sont hors compétition, qui sont présentés avec tralala hors compétition. Et je pense que c'est quand même, on est quand même dans une époque où t'as des producteurs, t'as des gens qui veulent prendre de moins en moins de risques. Il faut que les films soient bankable, il faut et tout. Donc Cannes, c'est bien d'être exposé à Cannes, mais on va pas prendre le risque non plus d'être en compétition. Donc je pense que le Dupieux s'inscrit complètement. Dans cette politique là et ça pose aussi de vraies questions sur les festivals de cinéma en général, sur qu'est-ce qui doit exister dans un festival de cinéma. Est-ce que c'est les films, est-ce que c'est le décorum autour, est-ce que on doit à tout prix exposer des films quelle que soit leur qualité, comme tu le disais. Voilà, moi je pense que ça pose vraiment des questions très intéressantes à ce niveau-là, et je pense que les festivals vont de plus en plus dans l'autre sens, c'est-à-dire ils vont de plus en plus dans le sens de on est là pour vendre et exposer des films. Oui. On n'est pas forcément là pour passer des choses plus pointues ou plus et là je pense qu'on est vraiment dans ce débat-là et c'est quand même intéressant, quoi.
Alors, tu disais que j'avais pas été méchant, là je vais l'être. C'est bien des films comme ça, parce que si c'était en compétition, ça laisse beaucoup de chance aux autres films.
Eh bien,
c'est des fois les jurys.
On va pas terminer
les jurys sont surprenants.
Oui, ouais,
les jurys sont extrêmement surprenants.
Les jurys sont surprenants. On va pas terminer quand même
sur cette note
un peu triste. Enfin, je veux dire que. Il s'est filmé, Quentin Dupieux, mais...
Oui,
je veux dire,
c'est un très beau travelling à la fin.
Un très beau travelling, un peu long, mais bon, c'est ce qu'il voulait. C'est vrai qu'il pose des sujets, il soulève des sujets qui sont intéressants, mais il ne les exploite pas. Je veux dire que c'est un brouillon de copies. c'est pas abouti. Alors, pour moi, c'est, je sais pas ce que t'en penses, Céline, mais pour moi, c'est pas un film abouti.
Pour moi, il est pas
commencé, quoi.
Ouais.
Bon, en tout cas, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, je voulais en profiter, bah, puisqu'on
bien
a,
sûr,
on a plus de, pour une fois, parler de films que j'ai pas encore vus, que j'aimerais voir et qui sont sortis, qui sont des films fragiles entre guillemets. J'aime bien des fois parler des films fragiles et qui ont une très très bonne presse. Je pense notamment au film japonais de Chinya Tsukamoto qui s'appelle L'ombre du feu, qui passe au CAM, qui à mon avis va faire un passage météoritique parce qu'il va pas attirer grand monde. Alors Chinya Tsukamoto, c'est un metteur en scène japonais complètement barré qui a une quinzaine d'années a fait les Tetsuo, qui fait des Tokyo Fist, qui fait des films extrêmement dérangeants, percutants, et là semble-t-il c'est encore un film assez malaisant, dans le sens de qui met mal à l'aise, et je pense que c'est un film très intéressant. Et un autre film qui s'appelle Rapture, ou Rapture, j'avais tout, qui est un film indien dont j'ai lu le plus grand bien, qui apparemment mélange cinéma social et film fantastique. Apparemment, il y a des plans d'une beauté à tomber par terre, enfin, c'est ce que j'ai lu. Et je pense que c'est un film aussi fragile, c'est un film qui n'aura pas énormément d'audience. Donc voilà, moi, c'est des films que je vais essayer d'aller voir et que je vous encourage à aller voir. J'espère qu'on pourra en parler, en reparler. Bon, en tout cas, j'avais envie de glisser un mot sur ces deux films.
Alors, j'ai revu hier soir ou avant-hier soir sur Arte le film de Terrence Malick, je me souviens plus du titre, sur ce garçon qui ne veut pas partir à la guerre pendant la guerre 39-40. Mais qu'est-ce que c'est bien filmé! Mais
là, si tu passes de Quentin Dupieux à Terrence Malick.
On découvre ce que c'est qu'un cinéaste, quoi.
Mais attends, mais c'était quel film du coup?
Ah, je sais plus, c'est sur.
C'est son dernier film, le dernier en date, je crois qu'il.
C'était le dernier en date?
Oui, il en a pas refait.
Alors, il y a Une vie cachée?
Une vie cachée, ouais, c'est ça. Mmh.
Je parle pas du sujet, je parle de la façon dont c'est filmé, sur la qualité narrative. Mais c'est exceptionnel, je veux dire, c'est.
Bon, eh bien, regardez la télévision, alors. Il y a aussi des très bons films.
Oui,
oui, oui, oui.
Et notamment sur Arte.
Mais qui sont des films.
Notamment sur Arte.
Et qui sont des vrais films.
Oui.
Alors, bon, bah écoutez, bye bye. N'oubliez pas d'aller au cinéma. Il y a des bons films.
Oui.
En express.
Voilà. Il y a ceux dont on a parlé, ceux dont on vous incite à aller les voir, même si on ne les a pas encore vus. Il y a quand même de quoi faire. Hein.
Oui, vous pouvez trouver du temps. Enfin, il faut du temps, effectivement. Mais allez-y, allez au cinéma. Il y a de très beaux films. On vous laisse rester en tout cas sur Radio Campus Orléans, car c'est Chip Meadow qui prend notre place. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour notre émission, mais mercredi prochain, c'est l'autre équipe. Donc toujours, alors on se fait un film, le mercredi de 19h à 20h. Merci beaucoup et donc bonne soirée.
Merci Céline, on te remercie comme d'habitude.
Merci Céline.
D'avoir assuré la technique. Voilà, et à très bientôt, on sera très très content de vous retrouver dans une prochaine émission.
Yes.
Bye bye.